Comme Olivier nous l'a annoncé tout à l'heure, on entame un nouveau cycle d'études sur l'évangile selon Luc, consacré aux relations de Jésus avec différents acteurs de son temps, et ce matin, en particulier, ses opposants. Alors, plusieurs passages sont possibles, on va se concentrer sur le chapitre 11 et lire à partir du verset 14. Avant d'aller plus loin, alors la lecture est un peu longue, c'est pas grave. Donc, à partir du verset 14, Luc, chapitre 11. Donc, Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et les foules furent étonnées. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme il connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine. Les maisons y tombent les unes sur les autres. Si donc le Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il, puisque vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons? Mais si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, ou vos disciples selon les traductions, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le bat, il lui enlève toutes les armes auxquelles il se fiait, et il peut distribuer le butin qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison, celle d'où je suis sorti. » Or quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va chercher cet autre esprit plus mauvais que lui. Ils entrent là, s'installent, et la condition dernière de cet homme-là est pire que la première. Tandis qu'il parlait, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le ventre qui t'a porté, les seins qui t'ont allaité !» Mais il répondit « Ah, heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent !» Comme les foules s'amassaient, il se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe, il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. En effet, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, les habitants de Ninive, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » La reine du Sud se réveillera lors du jugement avec les hommes de cette génération et elle les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau. Mais on la met sur le porte-lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est bon, tout ton corps aussi est illuminé. Mais s'il est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est illuminé, sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Tandis qu'il parlait, un pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le déjeuner. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, les pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapacité et de méchanceté, gens déraisonnables. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Donnez plutôt par des actes de compassion. » Ce qui est dedans, et tout sera pur pour vous. Mais quel malheur pour vous, les pharisiens! Vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les plantes potagères, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans omettre le reste. Quel malheur pour vous, les pharisiens! Vous aimez avoir le premier siège dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Quel malheur pour vous! Vous êtes comme les tombeaux que rien ne signale, et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des spécialistes de la loi s'écria, « Maître, en disant cela, tu nous outrages, nous aussi. » Il répondit, mais malheur, quel malheur pour vous, spécialiste de la loi. Vous chargez les gens de charges difficiles à porter, et vous n'y touchez pas vous-même d'un doigt. Quel malheur pour vous. Vous construisez les tombeaux des prophètes, alors que ce sont vos pères qui les ont tués. Vous êtes donc témoin, et vous approuvez les œuvres de vos pères, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous construisez. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils en tueront et en persécuteront. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, que l'on a fait périr entre l'autel et la maison. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Quel malheur pour vous, les spécialistes de la loi. Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés. Et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de sujets, lui tendant des pièges pour s'emparer de quelques paroles qui sortent de sa bouche. Voilà, jusqu'ici la lecture. Et donc, vous pouvez le constater, c'est un passage qui est long et dont la forme peut dérouter, peut décontenancer, puisque on a d'un côté des objections qui sont exprimées par différents adversaires, des réponses qui sont faites en convoquant des références parfois très précises, et une division en deux sections, donc une section qui concerne davantage les réponses que Jésus fait à son adversaire, donc du verset 14 au verset 37, et à partir du verset 37, une section plus longue, un épisode à part entière, qu'on peut isoler du reste, l'épisode du dîner, donc qui se passe très mal, et qui est scandé par ces expressions « quel malheur pour vous » qui sont parfois traduites par « malheur à vous » et sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Alors, ce qui m'intéresse dans cette forme, qui est assez difficile à étudier, puisqu'elle saute parfois presque du coq à l'âne, c'est justement la densité de ce qui va être dit, et le fait que Luc construit, en fait, à travers ses différentes rencontres, à travers ses différents échanges, un certain nombre de démonstrations, un certain nombre de dévoilements, de révélations. Et donc, ce n'est pas un passage désordonné, contrairement à ce que la forme peut nous laisser entendre, mais il y a toute une dramaturgie qui est mise en place, et sur laquelle j'aimerais m'attarder ce matin. Il y a une intention, il y a une démonstration. Alors, je vous propose de suivre quatre axes d'analyse. Le premier va se concentrer justement sur les oppositions que rencontre Jésus, avec cette idée qu'elle témoigne, elle démontre que le ministère public de Jésus est efficace. Et quelque part, plus Jésus suscite de l'adhésion, populaire en particulier, plus il rencontre de l'opposition, de l'opposition et des résistances. Dans un deuxième temps, je vous montre, on s'attardera sur les réponses de Jésus et on ira voir comment Jésus détourne les accusations qui sont faites, qui sont généralement là pour le piéger et qui se concentrent sur sa personne, en élargissant le point de vue pour aller sur un terrain davantage prophétique, théologique, et qui permet à Jésus de révéler quelque chose du plan de Dieu. Ensuite, on verra que Jésus n'écrase pas ses adversaires, que dans ses réponses à ces différentes à ces différents reproches qui lui sont faits, il dit quelque chose des personnes qui l'attaquent. Il les éclaire sur eux-mêmes. Et comme j'aimerais terminer non pas par un portrait négatif sur ce qu'il ne faudrait pas être, à savoir des pharisiens hypocrites, j'aimerais m'attarder sur ce que ce texte nous montre de positif, à savoir un certain nombre d'invitations que Jésus nous fait, des invitations claires pour nous guider dans une vie chrétienne qui serait heureuse, et qui ne serait pas donc sous le châtiment de ces malheurs qui structurent notre texte. Alors, concernant le premier point, qui est assez simple, l'idée que plus Jésus suscite de l'adhésion, plus il rencontre de l'opposition, il faut peut-être déjà resituer le passage dans son contexte. Et donc, le contexte, c'est celui d'une dynamique très forte, très positive, et qui est exprimée dès avant notre passage. On est dans une section très importante de l'évangile selon Luc, à savoir le moment où Jésus prend la décision avec ses disciples de prendre la direction de Jérusalem. C'est au début du chapitre 9 qu'on voit ce pivot. Début du chapitre 9, au verset 51. Donc c'est pas exactement le début, c'est le milieu du chapitre 9. Donc Jésus prend la décision, la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et jusqu'au chapitre 19, on a justement cette marche vers Jérusalem qui est, au niveau dramaturgique, un glissement essentiel pour Luc dans le cadre de sa rédaction. Et dans cette section en particulier, on voit qu'il y a tout un élan missionnaire qui est mis en place par Jésus, avec plusieurs épisodes où Jésus mobilise ses disciples avec un objectif très clair de diffusion de la bonne nouvelle et notamment de l'avènement du royaume de Dieu qui est à venir. Alors on le voit pour le coup au début du chapitre 9, au verset 1, quand il envoie les 12. On le voit aussi au chapitre 10, verset 1 également, avec la désignation des 72, chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et les envoya devant lui, deux à eux, dans toute ville. Donc on a comme ça un élan missionnaire qui est très clair et qui culmine au verset 17 du chapitre 10, lorsque les 72 reviennent et disent au Seigneur leur joie d'avoir vu se manifester un certain nombre de miracles et notre Seigneur Jésus qui tressaillit de joie en rappelant cette vision magistrale qu'il a eue, je voyais le Satan, chapitre 10, verset 18, je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair, je vous ai donné l'autorité, etc. Et donc toute une vision comme ça d'une progression dans le plan de Dieu. Et donc, quelque part, la forme du texte qui nous occupe est intéressante puisqu'elle traduit cette effervescence, cette densité, c'est-à-dire que ça va très vite. On passe d'une péricope à l'autre, on passe d'une réponse à une objection, à une réponse à un autre épisode. Et quelque part, Luc, par cette forme très variée, très libre, nous montre l'effervescence qui agite le contexte de cette époque et qui entoure Jésus. On le voit, cette effervescence, dans l'adhésion de la foule. Elle est évoquée à plusieurs reprises dans notre passage, hein, toujours au chapitre 11. On peut la voir par exemple au verset 14, où il est question de cette foule qui l'entoure. La foule qui assiste au miracle, les foules furent étonnées ou dans l'admiration, on peut lire autre part. Elles sont évoquées aussi au verset 29 ou ailleurs, où elles sont là systématiquement autour de Jésus. Et quelque part, même l'intervention de cette femme spontanée, au verset 27, qui s'écrie comme ça au milieu de la foule, heureuse celle qui t'a porté, heureuse ta mère, elle traduit comme ça cette effervescence qui accompagne Jésus et quelque part l'adhésion simple, spontanée de toute une série de curieux qui l'entourent et qui est la manifestation visible de cet élan missionnaire que Jésus a mis en place et sur lequel insiste Luc. En parallèle de cette effervescence, on voit des oppositions qui se structurent. Elles sont d'abord isolées, spontanées. Au début du texte, ils sont même pas nommés. Quelques-uns dirent, c'est par Belzébuth qu'ils chassent les démons. D'autres demandaient un miracle. Alors, si on lit un texte cousin de ce passage, dans l'évangile selon Marc, notamment au chapitre 3, on voit que parfois, Marc en particulier est plus précis. Et que les oppositions qui ne sont pas nommées ici sont en réalité souvent portées par des acteurs institutionnels, notamment des pharisiens et des scribes. Et chez Marc en particulier, l'accusation que Jésus chasserait les démons au nom du diable, elle est portée par les scribes. Alors, c'est quand même intéressant de voir qu'il suffit de quelques voix isolées pour mettre le doute et retourner une foule. Et la distinction, la précision sur ces quelques-uns qui suffisent à créer un doute est intéressante pour nous d'abord. Il suffit parfois de pas grand-chose pour que un groupe change d'avis et pour que notre propre position devienne très inconfortable. En revanche, si on lit le passage, on voit très clairement que ces quelques voix sont portées par des acteurs très précis et qu'elles sont tournées et montées en mayonnaise, si je peux me permettre l'expression, par tous ceux qui ont à souffrir du succès que rencontre Jésus. Alors, je précise que dans Marc, c'est quand même intéressant, parmi les opposants, il y a les propres parents de Jésus. Luc ne l'évoque pas, mais au verset 31 du chapitre 3 de Marc, il est question des parents de Jésus qui jugent leur fils hors de sens, donc Marie et Joseph. Donc, c'est pour vous dire que l'opposition peut prendre des formes quand même très différentes. Alors, le groupe qui a le plus à souffrir du succès de Jésus, ce sont les pharisiens. Alors, je ne vais pas détailler et expliquer dans le détail qui sont ces pharisiens, vous les connaissez sans doute. Ce qui est intéressant, c'est que ils sont ceux qui probablement sont le plus effrayés du succès populaire de Jésus. Pourquoi? Parce que même si certains pharisiens ont pu avoir des rôles politiques, on le voit dans les actes, globalement, le cœur de cible des pharisiens, c'est le peuple, la population, ceux qu'ils croisent dans la rue, qu'ils voient au temple et pendant les fêtes. Leur cœur de métier, c'est la piété quotidienne, c'est la piété populaire, c'est tout ce qu'ils vont pouvoir encadrer par toutes les règles de pureté, toutes les règles, toute la tradition qu'ils ont pu, dont ils sont les experts et qu'ils essayent de mettre en œuvre. Alors, c'est par exemple, très clairement, les Sadducéens, eux, puisqu'ils sont évoqués plus loin, vont plutôt proliférer dans l'aristocratie, avoir des idées plus libérales. Les pharisiens, eux, appuient leur pouvoir et leur contrôle sur une adhésion populaire. Et c'est justement ceux qui ont le plus à perdre du succès populaire de Jésus. Puisque Jésus, par son autorité, par les libertés qu'il prend vis-à-vis de la culture judaïque, marche littéralement sur leurs pattes-bandes et leur fait une ombre suffisamment grande pour que leur propre pouvoir soit remis en cause. C'est tout un écosystème que Jésus dérange, et du coup, il est assez logique que l'opposition que Jésus rencontre vienne de toute la structure sociale et religieuse de son temps. Je trouve ça assez intéressant, en particulier au verset 45, l'intervention du docteur de la loi qui vient défendre le pharisien un peu par corporatisme. Oh, que si tu leur parles comme ça, en fait, c'est aussi nous que tu outrages. Jésus qui en remet une couche et cette opposition qui du coup devient se structure. On voit qu'il y a une coalition qui se fait entre acteurs différents face à cet homme qui parle si librement et qui dérange. Alors, il y a aussi un intérêt. J'allais dire dramaturgique, on peut supposer que plus Jésus s'approche de Jérusalem, plus il s'approche de l'accomplissement de son plan, et donc plus il rencontre une opposition violente, une opposition qui se fait plus précise, se fait plus pressante. On a l'impression, quand même, surtout quand on continue au-delà du passage qu'on a lu, que le mal se déchaîne. Le mal se déchaîne et que tout est fait pour piéger Jésus. Et ce qui vient le démontrer dans notre passage, c'est le dernier verset du texte, où on voit les scribes et les pharisiens, donc ensemble, hein, cette coalition des adversaires, qui commencent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de sujets en lui tendant des pièges. Il y a une dynamique de complot très claire qui est en train de se structurer et qui sera confirmée un peu plus tard. Voilà, donc le premier point, ce texte nous montre une adhésion populaire très forte dans son trajet déterminé vers Jérusalem et du coup des oppositions qui se font plus nombreuses, qui se structurent et qui deviennent plus violentes. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me concentrer justement sur ces accusations, sur ces oppositions et la façon dont Jésus s'en détourne pour mieux révéler justement son plan, le plan de Dieu. Le premier point qui est intéressant, c'est que nous avons trois accusations majeures dans ce texte contre Jésus et que les trois se concentrent sur la personne de Jésus. La première, c'est celle qui ouvre notre passage, c'est celle des scribes. Marc nous dit que ce sont des scribes qui interrogent l'origine de la puissance de Jésus. Donc, ils accusent Jésus de chasser les démons par Belzébul. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément l'origine de ce nom, on voit la mention de Belzébul dans l'Ancien Testament, mais comme une divinité païenne. C'est dans le Livre des Rois. On a au début du Livre des Rois, du deuxième, un roi qui donc consulte Belzébul, et du coup, qui rencontre l'opposition d'Élie. Donc à la base, c'est plutôt une divinité païenne, mais avec le temps et par glissement sémantique, c'est devenu l'incarnation du mal, le prince des démons, donc par extension, Satan, le diable. Donc l'accusation est forte. Il s'agit de dire que Jésus chasse des démons potentiellement au nom du diable, et deuxièmement, même si ce n'était pas ça, cela supposerait qu'il pratique une forme de sorcellerie, un exorcisme, sous une forme de magie noire, et qu'il serait donc bien loin d'être un émissaire de la volonté divine. Ce doute-là qui est instillé, il est intéressant, il rappelle un peu la stratégie du serpent dans la Genèse. On va poser une question, et une question suffit pour que le doute s'installe et qu'on remette en question l'origine divine, le caractère divin de l'action de Jésus. Alors la seconde accusation est plus diffuse. Certains demandent un signe, un miracle. On voit d'ailleurs que ce reproche-là, enfin, cette question-là, du signe, Jésus y répond un peu plus tard, pas directement. Alors, c'est une accusation un peu différente, mais c'est le même esprit. Si on demande un miracle, c'est qu'on doute de son origine divine, on demande quelque chose de suffisamment spectaculaire pour qu'on puisse attester que Jésus agit bien au nom de Dieu. Le texte est clair sur les motivations qui sont derrière cette demande. Il s'agit d'éprouver Jésus, de lui demander quelque chose de particulièrement spectaculaire pour qu'il prouve le caractère divin de son action. On sait qu'il y a eu des résurrections avant, on sait qu'il y a eu d'autres miracles avant, donc ça peut étonner. On ne voit pas ce qu'il pourrait faire de plus spectaculaire que ça, mais Jésus prendra le temps d'y répondre. Et la troisième accusation qui ouvre la deuxième section du texte, à savoir le dîner, c'est l'accusation très simple, qui correspond aussi aux deux autres. Jésus enfreindrait la loi divine en ne pratiquant pas les règles rituelles d'hygiène et donc les fameuses ablutions avant le déjeuner. Donc je reviendrai sur ce point un peu plus tard, mais c'est le même esprit que les deux autres. Jésus n'est pas dans le camp de Dieu. Voilà ce que disent, in fine, chacun de ses adversaires sous des formes différentes. Alors ce qui m'intéresse dans la réponse de Jésus, c'est le fait qu'il ne se laisse pas piéger par la dimension rhétorique, par le débat. Déjà, il ne fuit pas le conflit, il ne néglige pas ses adversaires, il ne les méprise pas, même si son diagnostic est très sévère et certaines de ses réponses sont quand même assez violentes. Il en fait des moments de pédagogie. Et c'est vrai que ses réponses sont des moments publics. C'est-à-dire que Jésus est entouré d'une foule, encore une fois. Et donc, ces réponses, forcément, elles sont décryptées, analysées, étudiées, et elles vont avoir un impact sur les gens qui les entourent. Donc elles font partie aussi de son ministère, quelque part, ces réponses. Et je trouve ça intéressant, sur l'ensemble du passage, comment Jésus démarre souvent ses réponses par dans une dimension très, très rhétorique, et puis élargit très rapidement la focale pour aller sur un plan beaucoup plus large, prophétique, sur lequel on va s'attarder maintenant. Alors, l'exemple le plus clair, hein, c'est la première réponse que Jésus fait donc, suite à l'accusation de travailler pour le diable. Il commence par tout simplement démontrer l'absurdité des affirmations de ses adversaires. Si je chasse les démons au nom du diable, c'est incohérent, puisque le diable n'a aucun intérêt à ce que les démons soient chassés. Donc, ce que vous dites est absurde. Il en profite pour en rajouter une petite couche, puisqu'il semble que des exorcismes soient pratiqués également par ceux qui sont appelés ici les fils. Donc, verset 19, hein, « Si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils par qui les chassent-ils ? » Donc, certains disent les disciples. Donc, on peut imaginer que parmi ces scribes et ces pharisiens, dans les familles des uns et des autres, il y ait une effervescence comme ça, avec des miracles d'exorcisme qui sont effectués. Donc, si chasser les démons, ça revient à faire le travail du diable, ben, vos fils et vos disciples le font également. Donc, il met en avant l'incohérence logique de l'accusation qui lui est faite. Mais très rapidement, et c'est ça qui m'intéresse, le raisonnement s'élargit. Il détourne l'attaque de sa personne pour aller vers un constat beaucoup plus général, un cadre bien plus large, celui de la lutte du bien contre le mal, celui de la progression du royaume de Dieu. Alors, on le voit, on peut le relire hein, dans sa réponse immédiatement. « Mais si c'est par le doigt de Dieu, verset 20, que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Et ensuite, le développement sur l'homme fort qui se trouve vaincu, défait par un adversaire plus puissant. Donc, on le voit, il élargit. Il sort complètement du discours sur sa personne pour aller vers le résultat de ses exorcismes. Le résultat, c'est que des démons sont chassés et donc que le royaume du mal recule et que le royaume de Dieu progresse. Donc, qu'on est à une sorte de basculement historique qui est la progression du plan de Dieu. Et C'est intéressant d'avoir quelques pages avant, justement, une vision de ce basculement. Quand il dit « J'ai vu Satan tomber du ciel », un peu plus tôt le passage qu'on a lu tout à l'heure, on a ici une référence à ce seuil qui est en train d'advenir par l'action de Jésus, et du coup, devant lequel les pharisiens, les scribes, tous ceux qui attaquent Jésus sont aveugles. Et du coup, ils les placent devant leur propre erreur, et puis quelque part la perdition qui les attend, ce qui explique un peu les malheurs à vous qui vont suivre. Je trouve ça intéressant en particulier qu'il utilise l'expression « le doigt de Dieu ». Si c'est par le doigt de Dieu, verset 20, que je chasse les démons. Alors, le doigt de Dieu, on en trouve plusieurs occurrences dans l'Évangile. On pense quand il écrit sur le sol, quand il défend la femme adultère avec son doigt, et ça renvoie aussi au moment où Dieu écrit sur les tables dans l'Exode. Mais là, très précisément, ça peut renvoyer en Exode 8, cette expression « le doigt de Dieu » à l'expression qui est utilisée par les magiciens qui sont hostiles à Aaron et à Moïse, qui voient les prodiges arriver sur l'Égypte, et les magiciens qui font ça avec le doigt de Dieu. Et donc, en faisant référence à ces gens qui connaissent très bien l'Ancien Testament au doigt de Dieu, c'est peut-être une façon de leur dire « en fait, vous êtes dans le camp de ces magiciens ». C'est-à-dire que moi, j'agis avec le doigt de Dieu, et vous, vous vous opposez, et vous refusez de voir le signe manifeste que le royaume de Dieu est en train de progresser. Vous êtes dans le mauvais camp. Et ce n'est pas un hasard que juste après avoir dit ça, il précise « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Donc on a bien, comme ça, un déplacement du rhétorique pur au prophétique, et donc une façon pour Jésus de replacer les accusations dans un contexte qui clairement les dessert. Alors, on peut voir le même élargissement, même s'il est un peu plus complexe, dans les versets 29 à 32, quand il répond à ceux qui lui demandent des miracles. C'est assez étonnant, puisqu'il répond à ceux qui demandent des miracles en faisant un double mouvement, un mouvement dans le passé et un mouvement dans le futur, flashback, flash forward, on dirait au cinéma, puisqu'il évoque deux figures du passé, Jonas et les habitants de Ninive, et la reine de Saba, donc cette reine éthiopienne, vraisemblablement, qui est allée visiter Salomon dans le livre des rois, je crois. Oui, ça doit être ça. Dans le livre des rois. Donc, c'est intéressant parce que donc il fait référence à ces figures du passé et en même temps, il les projette sur un jugement à venir, puisque par deux reprises, il dit « Vous allez être jugés par ceux que Jonas avait convaincus, donc les habitants de Ninive, et vous allez être jugé par la reine de Saba, la reine du Midi, au jugement. » Alors ça peut être étonnant. Pour moi, il y a plusieurs choses intéressantes à en tirer. La première, c'est que, quelque part, c'est une façon, humilier, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de dire à ses adversaires, bah, finalement, vous qui êtes juifs, vous qui êtes du peuple élu, vous n'arrivez pas à voir que vous avez devant vous plus grand que Jonas et que Salomon, alors même que des païens, des non-juifs, les habitants de Ninive et la reine du Midi, la reine de Saba, eux, ont été convaincus par ces deux figures, donc Salomon et Jonas. Donc, vous avez encore moins de lucidité que ceux qui n'appartiennent pas au peuple élu. C'est peut-être aussi, alors là, peut-être que je m'avance, mais une façon d'annoncer, de préfigurer justement de l'objectif du plan rédempteur de Dieu. C'est-à-dire que en disant à ces personnes qui ont empreint de culture juive, qui appartiennent au peuple juif, bah, finalement, vous êtes moins lucides que des païens, c'est peut-être une façon aussi de dire Dieu va s'adresser aussi aux païens. Dieu va aussi élargir son salut à toute l'humanité et pas simplement à ceux qui font partie du peuple élu, qui respectent sa loi, la loi de Moïse. Donc, deuxième élargissement, deuxième élévation, je trouve ça quand même assez intéressant de voir que pour Jésus, le conflit, le débat n'est pas une occasion de débattre pour débattre, ni de simplement faire taire son adversaire, mais de révéler quelque chose. De révéler quelque chose de son plan, de son action, de sa personne, et aussi des adversaires eux-mêmes. C'est le troisième point que j'aimerais développer. Jésus n'écrase pas ses opposants, il les éclaire sur eux-mêmes. Là, on a vraiment un mouvement qui est du macro au micro, c'est-à-dire qu'on part du plan général de Dieu et on arrive au cœur de ces personnes qui l'attaquent, et à notre propre cœur également. D'ailleurs, intéressant de noter que dans ce combat, cette joute verbale, ils ne boxent pas dans la même catégorie, parce que le texte précise que Jésus connaît toutes leurs pensées. Donc on a une supériorité évidente de Jésus sur ses adversaires, et ce qui le conduit à pouvoir parler, être très lucide sur leur situation, et à faire un diagnostic très sévère de ces pharisiens et de ces légistes. Alors, pour aller plus loin dans ce passage, je vous propose de nous concentrer sur la section du dîner, à partir du verset 37, et les fameuses... ce ne sont pas des imprécations, ce ne sont pas des malédictions. Alors, il y a quelque chose sur la traduction qui est intéressant, parce que dans certaines anciennes versions, c'est traduit « malheur à vous ». En fait, en grec, c'est une expression qui est difficilement traduisible, dont la traduction là, que j'ai utilisée est plus proche, hein, quel malheur pour vous, c'est plus une expression d'un chagrin, d'une plainte, que vous êtes malheureux, vous êtes vraiment bien à plaindre. En fait, même le terme, la traduction qu'il faudrait la plus exacte serait une espèce d'onomatopée, c'est aïe aïe, vous êtes vraiment, vraiment là, c'est compliqué. C'est difficile de relire ce texte avec cette idée, mais vous voyez bien l'idée, c'est quelle angoisse pour vous, pharisiens. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit sur leur cœur ? Le message principal, il est assez simple. Vous êtes bien malheureux d'être aussi hypocrite. C'est l'accusation principale. Vous êtes hypocrite, c'est-à-dire que vous avancez masqué, vous dissimulez des choses, et c'est votre levain. L'expression est utilisée un peu après, c'est ce sur quoi vous prospérez. Vous êtes bien malheureux d'être aussi hypocrite. Et cette hypocrisie, elle prend plusieurs formes. La première chose, peut-être la plus évidente, c'est la duplicité. C'est-à-dire que ces pharisiens... cachent des choses, ils accomplissent en secret des œuvres qui sont contraires à la volonté de Dieu. Lorsqu'il leur dit « à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté », c'est bien une façon de dire que vous avez une image publique, mais en réalité, quand on regarde à l'intérieur de votre cœur, on n'y voit que des choses toxiques, des choses qui posent problème devant Dieu. Alors, on peut deviner qu'il y a un rapport un peu toxique à l'argent, il y a quelques allusions au trafic, éventuellement à des vols, à une forme d'avarice, lorsqu'il est question... des dîmes qui sont données pour les herbes, donc quelque chose qui ne coûte pas beaucoup, alors que vraisemblablement, ils pourraient donner davantage. Donc, je passe là-dessus, mais c'est quand même intéressant. On a aussi, bien sûr, les pièges, les complots qu'ils mettent en œuvre, et on peut supposer que ça fait partie de ce qu'ils dissimulent. Ils ont des agendas secrets, des agendas cachés. Et cela même, alors que Dieu connaît le moindre recoin de leur cœur. Et je trouve ça aussi intéressant que Jésus prenne le temps de rappeler à ses pharisiens le fait que finalement tous leurs secrets sont un peu ridicules quand on sait que Dieu, leur créateur, connaît tous les secrets. On peut le voir notamment un peu plus loin au chapitre 12 au verset 2 lorsqu'il dit à ses disciples « Il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être connu. » Donc, vous manquez de bon sens, vous êtes insensé, leur dit-il, ou déraisonnable, puisque vous croyez cacher à celui qui a fait l'intérieur de tout ce qui vous constitue des choses qui sont contraires à sa volonté. Alors, donc premier point, duplicité. Deuxième point, leur instrumentalisation de la religion. Ils utilisent la religion à leur profit. Alors, le profit, par exemple, de la réputation, du paraître, on le voit au verset 43. Quel malheur pour vous, les pharisiens, vous aimez avoir le premier siège dans les synagogues et être salué sur les places publiques. On a ici une savoureuse mise en scène de ce souci de paraître, d'être bien vu, d'être bien respecté, qui se nourrit d'une religion de façade. C'est-à-dire qu'en public, ils apparaissent vertueux, ils apparaissent respectueux des règles, mais tout ça est motivé par un intérêt personnel ou par une stratégie de caste, de groupe, pour pouvoir se distinguer, avoir une assise, on pourrait même dire un pouvoir, sur le peuple. Alors, non seulement ils utilisent la religion à leur profit, mais ils la remplacent par des règles humaines, par des usages et des traditions qui ne constituent pas ce que Dieu souhaite pour son peuple. Donc, ils se trompent sur ce qu'attend Dieu dans la pratique religieuse. Alors, soit parce qu'ils sélectionnent les règles qui les arrangent, on le voit avec la menthe et puis les herbes, où visiblement ils préfèrent des offrandes peu coûteuses à des choses plus engageantes, ils inventent aussi de nouvelles règles. Et ces nouvelles règles, ils les présentent comme étant la volonté divine, comme une tradition. C'est le cas ici de la remarque que le pharisien fait à Jésus. Lorsqu'il s'étonne qu'il n'a pas fait ses ablutions rituelles avant le déjeuner, il ne s'étonne pas de ce qu'il manque d'hygiène avant d'aller manger. Non, il s'étonne qu'il n'ait pas pratiqué un rite d'ablution qui appartient à une tradition à cette époque. Ça, on le voit dans l'évangile selon Marc, au chapitre 3, où tout le passage est davantage développé. Au chapitre 7, pardon, chapitre 7, verset 3. Je vous lis ce passage chez Marc, hein, on a justement le développement. L'accusation porte ici contre les disciples et pas contre Jésus, chapitre 7, pardon, verset 2. Il voit quelques-uns de ses disciples manger avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains parce qu'ils sont attachés à la tradition des anciens. Donc Marc, ici, très clairement, nous explique que cette règle, et effectivement, on n'en a aucune trace, ni dans le Lévitique, ni ailleurs, cette règle n'est qu'une tradition, une tradition humaine. Mais le pharisien, en s'offusquant ici devant les disciples, chez Luc, devant Jésus, donne le sentiment que, en fait, il s'agit d'une règle rituelle attendue, requise par Dieu lui-même. Donc, ils inventent de nouvelles règles, et du coup, et c'est peut-être l'accusation la plus grave, eh ben, ils trompent tous ceux qui les écoutent, toutes celles et ceux qui les écoutent. Non seulement ils se trompent sur ce qu'attend Dieu, mais ils trompent les autres par leur légalisme, ils éloignent la population, les croyants, de Dieu lui-même en délivrant une image dévoyée de la religion, une image formelle, pesante, qui devient du coup inaccessible. On le voit à plusieurs reprises dans notre passage. Je pense qu'on peut par exemple voir cette accusation très claire au verset 46, quand intervient le légiste, le spécialiste de la loi. Jésus lui dit: Vous chargez les gens de charges difficiles à porter et vous n'y touchez pas vous-même d'un doigt. Autrement dit, on retrouve ici l'accusation d'hypocrisie, c'est-à-dire que vous faites peser tout le poids d'une religion factice à ceux qui vous écoutent, alors que vous-même, vous n'êtes pas fichu de la respecter. Mais l'expression la plus nette, c'est au verset 52, et je trouve que c'est celle qui vraiment frappe l'esprit. Vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entré, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Et ça, c'est quand même tout à fait glaçant. Ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Donc le crime, si je peux me permettre cette expression, mais le crime ici, c'est d'empêcher quelqu'un qui pourtant est sans doute sincère de cœur de pouvoir accéder à Dieu. Et donc de faire obstacle entre Dieu et ses enfants. En entretenant peut-être aussi une forme de religiosité. Qui est devenu inaccessible par sa complexité. Le fait qu'il précise, vous avez enlevé la clé de la science, autrement dit, vous avez rendu inintelligible finalement la loi divine, à force de rajouts, à force de traditions, c'est devenu impossible à respecter déjà, et puis en plus obscur. Vous avez enlevé la clé de la science par vos règles ajoutées. Et du coup, vous avez fait obstacle. Alors, il y a une accusation encore plus forte au verset 44 sur laquelle je ne m'étends pas, mais c'est l'image des sépulcres au verset 44. Quel malheur pour vous, vous êtes comme les tombeaux que rien ne signale et sur lesquels on marche sans le savoir. La comparaison avec les tombeaux est un peu particulière. Dans la loi mosaïque, toucher un tombeau, c'est se rendre impur. Donc, comparer les pharisiens à des tombeaux, cela suppose que tous les gens qui rentrent en contact avec eux, de fait, entretiennent une impureté malgré eux. Donc ça va dans la suite de ce que je viens de dire, à savoir qu'ils ont un rôle néfaste, un impact néfaste sur ceux qui les écoutent et sur l'ensemble du peuple par ailleurs. Alors, il y a des exemples historiques, on pense évidemment à la Réforme et à la façon dont des règles ajoutées finissent par couper, par créer une séparation entre ceux qui veulent, tant que les croyants, et puis par exemple, ne serait-ce que la Bible. On sait que pendant très longtemps, la lecture de la Bible était proscrite ou empêchée dans nos régions. Mais sans aller jusque-là, on sait très bien que dans les églises, y compris les nôtres, on a pu avoir cette tendance à mettre, à rajouter des règles, à rajouter, à se faire les défenseurs de la pureté de la table, à se faire les défenseurs de ceci et cela, et du coup à créer des obstacles entre finalement des fois des intentions spontanées, des désirs de se rapprocher de Dieu et Dieu lui-même. Donc un problème ici dont les pharisiens et les docteurs de la loi se rendent coupables, et qui a l'autre difficulté, c'est que ben, ça fait des petits. Tout ça, ça prospère. À savoir que, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que c'est un peu compliqué, mais l'image du levain est utilisée à un moment donné au chapitre 12, l'hypocrisie est votre levain. Donc, on peut supposer que ça fonctionne, que ça fonctionne bien, que c'est ce sur quoi s'appuie, comme un levain, on a besoin pour faire du pain, ce sur quoi s'appuient les pharisiens pour continuer à prospérer. Et au verset 47, et versets 47 à 51, il évoque toute une généalogie du crime, entre guillemets. On peut relire ce passage au verset 47. « Vous construisez les tombeaux des prophètes, alors que ce sont vos pères qui les ont tués. Vous êtes donc témoins et vous approuvez les œuvres de vos pères, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous construisez. Et ensuite, vous êtes comptables en tant que génération du sang d'Abel. » Abel, on voit qui c'est, Zacharie. Il y a débat, ça peut être le fils du grand prêtre qui dans les chroniques est tué et a cette phrase très forte, Dieu vous voit et cela vous sera compté, Dieu vous en demandera compte, demandera de rendre compte de ce crime. Ça peut être aussi, d'après la tradition, le père de Jean-Baptiste qui aurait été tué par Hérode, mais c'est moins convaincant parce que la source de cette histoire du Zacharie, père de Jean-Baptiste, c'est un évangile apocryphe, donc ça n'a pas tout à fait la même force, mais... En tout cas, Jésus fait référence à des meurtres passés, au péché des pères, de ceux qui se sont opposés aux prophètes. Et donc quand il dit aux pharisiens, bah, vous construisez les tombeaux, vous honorez la mémoire de ceux-là même qui avaient été tués par vos pères, par ceux qui défendaient la tradition, vous ne faites que continuer une sorte de généalogie de l'abus, de généalogie de filiation de l'hypocrisie depuis les temps anciens, et cela continuera si vous n'êtes pas arrêté. D'où son intervention. Voilà, alors on le voit, progressivement, on est passé du plan général de Dieu, et Jésus, tout doucement, montre du doigt, le fameux doigt de Dieu, montre du doigt le cœur de ses adversaires. Et je trouve ça intéressant, du coup, puisque cela nous permet de voir des invitations peut-être plus positives, qui peuvent être des instructions pour nous, sur ce que devrait être notre foi. Parce que finalement, la question qui peut se poser à la lecture de tous ces passages, c'est quelle qualité, enfin, qu'est-ce que nous devrions faire pour ne pas être comme ces pharisiens ? Et on pourrait faire un portrait très simple, en miroir, pour être un bon chrétien, il faut être tout l'inverse de ce que sont ces pharisiens. Il suffit de les prendre les uns après les autres, hein, les malheurs à vous, hein, ne pas être hypocrite, ne pas être dupliste, ne pas être légaliste, etc., etc. C'est tout à fait possible. Quel bonheur pour toi si tu n'es pas un pharisien ? À mon sens, c'est important de le faire, mais c'est peut-être pas ça qui va nous encourager pour cette semaine. En tout cas, ça peut être un avertissement qu'on peut avoir en tête chaque jour. Alors, plutôt qu'une définition en négatif, j'aimerais suivre finalement l'invitation de Jésus qui montre du doigt notre cœur et qui nous donne plusieurs encouragements positifs pour avoir une vie heureuse devant Dieu. Et la première invitation, c'est peut-être la plus glaçante, mais elle est quand même très importante. Heureux celui qui choisit le bon camp. C'est la première chose, c'est-à-dire que ça démarre déjà par un choix, choisir le bon camp. On le voit au chapitre 11, au verset 23, j'ai lu ce passage tout à l'heure, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Donc il faut choisir un camp. Cette distinction, on la retrouve un peu plus loin, au chapitre 12, verset 8. « Je vous le dis, quiconque se reconnaît en moi devant les gens, publiquement, le Fils de l'homme se reconnaîtra aussi en lui devant les anges. Mais celui qui m'aura renié devant les gens sera renié devant les anges de Dieu. » Alors, il y a une logique un peu militaire, choisir un camp. Si on s'en tient là, c'est sûr que ça peut aussi constituer une sorte d'avertissement, d'alerte, parce qu'il y a un risque qu'on soit dans le mauvais camp si on fait les mauvais choix. Mais je trouve ça quand même intéressant à la fin du verset 23, à savoir... Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Il y a bien cette idée que Jésus rassemble et que Dieu est acteur dans cette unité qu'il met en œuvre et qu'il participe aussi du coup intimement dans chacun de nos cœurs du choix qu'on va faire. Donc ça, c'est peut-être pour nous encourager à nous rappeler que Dieu n'est pas celui qui sépare, mais celui qui rassemble, qui répare, qui renoue les liens. Et même ces pharisiens, ces gens très détestables, en leur parlant, il essaye de les faire réagir. Il essaye peut-être de les faire cogiter sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font. Et donc, il leur laisse une chance. La deuxième invitation qu'on peut voir dans ces différents passages, c'est une invitation à protéger son cœur. Heureux, toi qui protèges ton cœur. C'est une image qu'on peut, cette idée de la protection, c'est une image qu'on peut voir dans le passage qui évoque l'épisode un peu étrange, mystérieux. On a un esprit qui sort d'un homme et qui revient deux fois plus puissant. C'est à partir du verset 24. Jésus évoque ce passage, évoque cet épisode, pardon. Je le lis, lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux arides, donc ça peut faire écho à d'autres isolements d'esprit impur qu'on peut voir ici et là dans les évangiles. Il cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison, celle d'où je suis sorti. » Quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il va chercher cet autre esprit plus mauvais que lui, ils entrent là, il s'installe, et la condition dernière de cet homme-là est pire que la première. Alors, c'est un peu mystérieux, je ne tiens pas forcément à avoir une interprétation unique de ce passage, mais je trouve ça assez intéressant que le mal est chassé, donc jeté dehors, littéralement, l'exorcisme jeté dehors, il revient dans une maison qui a juste été ornée et balayée. Donc on peut supposer que c'est une maison qui se croyait en sécurité, mais qu'en fait, il n'y a pas eu de changement de fond. Ça a juste été un peu décoré, nettoyé. Et la personne concernée n'a pas fait un travail sincère pour justement empêcher ce retour de l'esprit impur. Et ça nous renvoie aussi au passage qui précède, quand Jésus évoque le prince qui se fait battre par un prince plus puissant. C'est-à-dire que il faut pour pouvoir résister, Dieu nous appelle à devenir mieux armés, à mieux armer notre cœur pour pouvoir résister à des attaques éventuellement plus puissantes. Alors, il ne s'agit pas ici de développer une sorte de survivalisme chrétien où il faudrait avoir une vision martiale, donc mieux armé ici. Je pense qu'il faut le comprendre au contexte de l'évangile selon Luc, c'est-à-dire qu'on est mieux armé par quoi ? Par l'esprit. Et c'est cette recherche de l'esprit qu'on voit dans l'évangile selon Luc et qu'on voit et aussi dans les actes qui sont du même auteur. L'armement, il vient de l'esprit. C'est Dieu qui arme les cœurs, c'est l'esprit de Dieu qui nous arme. On le voit au verset 12 du chapitre 12. J'ai isolé quelques versets, mais on pourra en trouver d'autres. Lorsque les disciples s'inquiètent de ce qu'ils diront devant les autorités, devant les princes, Jésus leur répond « Car l'Esprit Saint vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. » On le voit aussi au chapitre 11, un peu plus tôt, au verset 13. « Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Donc on a bien ici une invitation à inviter dans notre maison, notre cœur, l'esprit, qui ne fera pas corner et balayer la maison, mais produira un changement de fond, une vraie structuration intérieure, pour pouvoir ensuite être serein devant Dieu. Dans le même esprit, si j'ose dire, on a celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, on a une invitation directe qui est donnée par Jésus pour nous donner une indication sur ce qu'il faut faire. C'est au chapitre 11, et c'est le fameux épisode de cette femme qui intervient à partir du verset 27. Tandis qu'il parlait ainsi, donc une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. » Mais il répondit « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. » Alors, cette expression spontanée, émouvante, certains en font une interprétation un peu critique, elle ne comprend pas, la pauvre dame, que ce n'est pas la filiation qui importe, que le fait que Marie soit bénie, c'est pas juste parce qu'elle était la mère de Jésus. Donc, moi, c'est pas ma position. Je pense que vraiment, Jésus prend en compte ce que dit cette dame. Simplement, il l'invite à aller un peu plus loin lorsqu'il précise le véritable bonheur, heureux celui qui entend la parole de Dieu et qui l'observe. En faisant ça, bien sûr, il prend une distance avec l'honneur généalogique d'être le père ou la mère d'un grand homme, d'un grand prophète, mais surtout, il valorise un comportement qui a été précisément celui de sa mère, à savoir écouter et croire et obéir. Puisque finalement, si Marie est bénie, c'est pas uniquement parce qu'elle est la mère de Jésus, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas ça qui l'a bénie. Ce qui l'a bénie, c'est d'avoir été celle qui a cru. Et ça, c'est Luc qui nous le dit dans le chapitre 1er au verset 45, « Heureuse celle qui a cru ». Et donc, il fait une référence directe à sa mère ici. Elle est bénie non pas parce que c'est ma mère, mais elle est bénie parce qu'elle a cru Dieu. Elle a été bénie parce qu'elle a cru la parole de Dieu, elle a observé la parole de Dieu, elle a été bénie pour cela. Quelque part, Marie est la première croyante, entre guillemets, on peut y voir ici une référence directe. Donc heureuse, heureux, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Le dernier passage, qui nous dit très clairement, qui nous donne une invitation très claire pour vivre une foi positive, c'est le passage, la parabole de la lampe et du corps, à partir du verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau. On la met sous le porte-lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est bon, tout ton corps est aussi illuminé. Mais s'il est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Prends donc garde, etc., etc. Là, petit point de forme, irruption du tu, qui est un peu enfin, de la deuxième personne du singulier, qui suppose qu'il y a un dialogue, alors même que dans les passages qui précèdent, on n'est pas forcément dans un dialogue direct. Mais c'est une rupture intéressante, parce que c'est une affaire entre Dieu et chaque individu. Tu dois faire attention à ce que ton œil soit lumineux. Et on pourrait avoir une lecture moralisatrice de ce passage, moi elle ne me convainc pas du tout, même si elle a un intérêt pastoral, hein, de dire attention à ce que tu regardes, parce que sinon tu vas être influencé par des choses qui seront négatives. On peut avoir une interprétation moralisatrice de ce passage, mais ce n'est pas ça vraiment que je trouve intéressant ici. Ce qui est intéressant, c'est que l'œil ici, il est actif. C'est la lampe du corps, c'est ce qui éclaire. Donc il fonctionne en système avec le cœur, quelque part. Et c'est cohérent par rapport à ce que dit Marc, par exemple, quand il dit, on l'a évoqué dimanche dernier avec Peter Laribeau, c'est bien du cœur que sortent les mauvaises pensées, que sortent les choses négatives. Et donc, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui nous saoule, c'est ce qui vient de l'intérieur. Donc ici, dans le passage, l'œil, il est actif, il est intelligent, et il fonctionne en système avec le cœur, un cœur qu'on peut imaginer, s'il est bien inspiré par l'esprit, donnera les bonnes directions et illuminera l'ensemble de la personne dans tout son être, dans toutes ses composantes. Un œil sain, une manière juste de voir, c'est un œil qui regarde avec le regard de Dieu, qui regarde inspiré par Dieu, et on peut imaginer tous les prolongements positifs que ça peut avoir sur notre vie quotidienne. Voilà pour les invitations positives. Donc vous l'avez vu, on est parti d'opposition qui naissait du succès populaire que Jésus rencontre. On a déployé des visions assez magistrales, un peu intimidantes sur le plan de Dieu que Jésus décrit, dépeint lors de ses débats comme une occasion pour convaincre ses adversaires, pour les replacer aussi dans un contexte où il y a une lutte entre des forces très, 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 très opposées. On a vu progressivement comment Jésus transformait ses oppositions en diagnostic, donc, je dirais pas médical, mais c'est presque ça, sur le cœur de ceux qui l'attaquent, et donc, par effet de rebond sur notre propre cœur, c'est une invitation finalement à vivre de manière transformée, avec un cœur renouvelé par l'esprit. Il y a ce verset 33, je trouve quand même très fort, hein, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau, mais on la met sous le porte-lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Si nous avons un œil sain, un cœur sain, revivifié par l'esprit, alors on rayonne vers l'extérieur, vers les autres. On pourrait avoir, justement pour ne pas être un pharisien, pour avoir cette tentation de se dire « Bah voilà, j'ai bien compris, si publiquement je me montre, je vais être gagné par l'orgueil, donc il faut que je m'écrase un peu, je vis une vie de foi discrète, une vie de foi pieuse, et puis au moins je n'aurai pas l'accusation d'être un orgueilleux personnage. » C'est sans doute vrai, c'est peut-être prudent de se méfier de soi-même, mais Dieu nous invite dans ce passage aussi à allumer la lampe sur le porte-lampe, donc à rayonner, à assumer notre foi. C'est pas toujours facile face à des accusations potentielles. On peut supposer que plus on rayonnera, plus on rencontrera des accusations. Si on reste chez soi, c'est globalement plus simple, mais l'opposition peut venir d'abord de notre propre cœur. On peut nous-mêmes être finalement notre premier adversaire, le premier opposant, si on ne fait pas attention justement à ce regard lumineux que Dieu nous demande d'avoir. Donc, assumons notre foi, répondons aux questions, soyons disponibles aussi pour les autres, pour aider, pour secourir, engageons-nous. Alors, encore une fois, ce n'est pas martial, mais on peut hésiter à s'engager pour le baptême, on peut hésiter à prendre la scène pour raison X ou Y, on peut parfois s'auto-censurer. Je pense qu'on nous appelle à être lumineux et donc à s'engager de manière joyeuse et paisible. Et si jamais, par hasard, dans nos cœurs vient le doute, il y a ce verset de Luc qui me touche beaucoup, au chapitre 12, « Ne crains point, chapitre 12, verset 33, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et cela peut nous encourager toute cette semaine.